autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Charlie Dupiot.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation pour notre rendez-vous mensuel avec la presse scientifique. Quelles recherches, quelles découvertes ont retenu l'attention de nos confrères ce mois-ci? Autour de la table, ils sont quatre à être venus tout droit de la rédaction. Carole Châtelain de Sciences et Avenir, bonjour Carole.
Bonjour.
Philippe Hénarejos de Ciel et Espace, bonjour Philippe.
Bonjour.
Thomas Cavaillé-Foll de Sciences et Vie, bonjour Thomas.
Bonjour.
Et Philippe Pajot de La Recherche, bonjour Philippe.
Bonjour Charlie, bonjour à tous.
Au menu aujourd'hui, les bienfaits de garder son self-control ou la maîtrise de soi. Nous allons aussi revenir sur les 50 ans d'Apollo 8, mission spatiale qui nous a permis de voir la Lune de plus près, mais aussi notre planète, la Terre. Planète en proie au réchauffement climatique. On va parler bien sûr de la COP24, conférence sur le climat qui se tient en ce moment en Pologne. Et puis nous verrons que le stress pourrait favoriser la naissance de filles plutôt que celle de garçons. Vaste programme autour de la question: comment la science s'infuse et se diffuse. Bienvenue. Alors, on va commencer cette émission avec une actualité scientifique qui concerne le continent africain. Vient d'être annoncée la création d'un centre d'excellence africain coordonné par une unité mixte internationale du CNRS au Sénégal. Ce centre doit permettre de se pencher sur des questions liées à l'environnement et à la santé en Afrique de l'Ouest. Et je vous propose d'écouter à ce sujet le chercheur en géomorphologie Jean-Luc Perry. Il est basé à Dakar et il va être le directeur adjoint de ce centre. Nous l'avons joint par téléphone.
C'est un centre d'excellence africain, donc avec un financement de la Banque mondiale. Sa thématique de recherche, c'est donc agir pour l'environnement et la santé. Donc en fait, l'idée, c'est d'associer les grandes questions environnementales qui sont les enjeux d'aujourd'hui et de demain avec les questions de santé d'une sous-région, parce qu'en fait, ça concerne de toute l'Afrique de l'Ouest, qui est en plein changement, qui concerne bien évidemment l'environnement, mais aussi la santé, la société, toute une série de grandes transitions sont en train de se produire en Afrique de l'Ouest. Donc la particularité de ce centre d'excellence, c'est vraiment de développer des actions qui soient interdisciplinaires. Là, ça va nous permettre justement de changer de braquet, en quelque sorte. On va passer à la vitesse supérieure avec des moyens que nous n'avions pas jusqu'à présent. L'idée étant de former sur place de jeunes Africains à l'interdisciplinarité sur des questions d'environnement et de santé.
Alors, ce centre dit donc d'excellence sera basé à Dakar. Il doit officiellement ouvrir début 2019, l'année prochaine, et abordera quatre différentes thématiques de recherche: la qualité de l'air et son impact sur la santé humaine, notamment dans les grandes métropoles africaines où on a de plus en plus de mal à respirer. Seront étudiées aussi les maladies émergentes, comme l'hypertension artérielle, le diabète et certaines formes de cancer. On aura aussi des projets de recherche autour de la question de l'eau et notamment de maladies vectorielles transmises par des parasites, comme le paludisme qui sévit sur le continent. Et puis enfin sera évoquée la lutte contre la désertification du Sahel, un autre enjeu majeur pour la sous-région. Qu'est-ce que cela vous inspire, Philippe Pajot?
Alors déjà, c'est très très lié au climat dont on en parlait tout à l'heure, et je constate que c'est la Banque mondiale encore une fois qui finance cette collaboration, ce centre. 6 millions de dollars, c'est pas rien. Il finance aussi pas mal de choses sur le climat, on en parlera. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que le CNRS avait peu investi sur le continent africain jusqu'ici. C'était une sorte de chasse gardée de l'IRD. Et cette nouvelle collaboration va sans doute, avec ce financement important, va lancer de nouvelles collaborations en Afrique, notamment avec le CNRS, sur ces problématiques qui sont absolument majeures pour le continent africain et plus globalement dans les enjeux du changement climatique.
Donc une collaboration prometteuse. Alors également dans l'actualité scientifique, puisqu'on va parler d'espace aujourd'hui, vous l'avez sûrement noté, la capsule Soyouz MS-11 s'est arrimée avec succès ce lundi, il y a deux jours, à la station spatiale internationale, avec trois astronautes à son bord. Le décollage s'est donc bien passé, ce qui n'avait pas été le cas le 11 octobre dernier, lors d'un précédent lancement avorté. La fusée Soyouz avait connu une défaillance France, 2 minutes seulement après avoir décollé. Alors l'incident a apparemment été causé par la déformation d'un capteur lors de l'assemblage de la fusée, et cet échec avait relancé les doutes en fait sur l'industrie spatiale russe. Voilà, alors le lancement réussi de lundi a peut-être de quoi rassurer. J'imagine que vous l'avez suivi, Philippe.
Oui, je l'ai suivi, bien entendu. On a suivi en particulier avec attention cet instant fatidique où les 4 boosters qui constituent le premier étage se sont séparés, puisque c'était par là que la capsule précédente n'avait pas pu rejoindre l'orbite. Là, donc tout s'est bien passé. Évidemment, cette fusée-là a dû faire l'objet d'une attention toute particulière en termes de contrôle de qualité. C'était peut-être là que le bât blessait précédemment. On sait que quand même, cette fusée qui lance les Soyouz, a été lancée plus de 1800 fois depuis la fin des années 50. Elle est d'une fiabilité remarquable. Simplement, quand il arrive des accidents comme ça, c'est que y a des petits grains de sable dans la chaîne. Et simplement, je voulais ajouter que les astronautes qui étaient à bord de la station spatiale et qui attendaient la relève au mois d'octobre dernier ont eu un mois de plus en orbite, mais que dans le spatial, on prend toujours des marges de sécurité suffisantes, donc ils n'étaient pas en danger, mais là, il fallait quand même se dépêcher un peu. Donc ce lancement qui a eu lieu devait être initialement prévu le 20 décembre, il a été avancé pour que l'équipage qui va revenir à bord du Soyouz MS-9, qui lui est amarré là-haut, n'arrive pas à date de péremption, parce que dans l'espace, les matériaux vieillissent, et c'était en janvier. Donc il fallait prendre une marge supplémentaire pour qu'ils puissent revenir sans devoir abandonner la station. Tout s'est très bien passé.
Alors on va rester un peu dans l'espace avec vous, toujours Philippe Hénarejos. Vous nous proposez un petit retour en arrière, il y a 50 ans, avec la mission Apollo 8 qui nous faisait rêver.
And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you. All of you on the good earth.
Alors nous sommes le 24 décembre 1968, ces voix que vous entendez nous souhaiter Merry Christmas, Joyeux Noël, ce sont celles de 3 astronautes américains, Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders. Ils sont autour de la Lune. Il y a 50 ans, pour la première fois, des hommes contournaient la Lune pour en regarder la face cachée. Philippe, et vous y consacrez un article.
Oui, on a pris cet anniversaire à 50 ans, c'est pas rien, c'est quand même un demi-siècle. Depuis, il n'a échappé à personne qu'en dehors des missions Apollo qui ont succédé à cette mission-là, personne n'est retourné sur la Lune et encore moins autour de la Lune. Donc il y a des projets, on en parle sans cesse, on en parle beaucoup, on va encore en parler ce mois-ci, puisqu'il va y avoir une mission certes inhabitée, mais certainement chinoise, dont la date n'est pas encore reconnue.
Donc ni américaine, ni russe.
ni les Américains ni les Russes ne vont fêter ça en orbite autour de la Lune. Ce seront les Chinois qui le feront certainement, avec une sonde automatique, hein, il n'y a pas d'équipage humain. Et il y a toujours dans les cartons, enfin c'est plus que dans les cartons de la NASA, ce projet de renvoyer des hommes autour de la Lune avec, vous en avez déjà entendu parler, celui d'une station spatiale autour de la Lune pour les années 2023. 24, 25, etc. Alors tout ça a sans cesse été repoussé. Ça nous montre que 50 ans après, c'est toujours difficile d'aller autour de la Lune, c'est toujours coûteux, c'est toujours un peu pharaonique, parce que la fusée SLS, Space Launch System, que la NASA est en train de mettre au point, a énormément de retard, elle coûtait très cher. C'est un gros joujou, ça ressemble à la fusée Saturn V qui faisait quand même 111 mètres de haut et 3000 tonnes au décollage, celle qui avait propulsé l'équipage d'Apollo 8 autour de la Lune. C'est du même tonneau, donc c'est pas de la rigolade. Le savoir-faire, c'est un peu perdu. Et c'était quand même intéressant de voir, d'entendre ce que ces pionniers nous racontaient, puisqu'ils disent, les 3 membres d'équipage d'Apollo 8, on était partis explorer la Lune, c'était vrai, il fallait qu'ils aillent voir de près.
Et c'était très risqué, hein, à l'époque.
Et c'était très risqué, la mission était très risquée. Ils allaient voir des sites d'atterrissage pour ce qui allait devenir Apollo 11 avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin, un peu plus tard en 69. Mais finalement, ce qu'ils ont découvert, c'est la Terre, parce que ces 3 hommes-là ont été le témoin d'un phénomène étonnant, c'est le lever de Terre derrière l'horizon lunaire.
Avec une photo magnifique.
Voilà, voilà, avec une photo magnifique. Ils sont dépêchés. On raconte ça dans le dossier, puisque en fait, j'ai eu la chance de discuter avec deux d'entre eux au cours de ces dernières années, qui m'ont relaté encore une fois tout ça. Donc, on re-raconte l'histoire de ce cliché. Et ce cliché, bon, c'était pas comme aujourd'hui. On ne transmettait pas par Wi-Fi depuis la Lune. Il a fallu le développer une fois que l'équipage est revenu sur Terre. Et il a quand même fait la une de pas mal de journaux. Et petit à petit, il a un peu infusé dans les consciences. Et le fait qu'il y ait eu quelqu'un derrière l'appareil photo, que ce ne soit pas une sonde automatique qui ait pris ce cliché de la Terre, ça a quand même montré que la Terre était... On était déjà dans un vaisseau spatial. C'était peut-être la première prise de conscience. On est en 1968, c'est 4 ans avant le rapport Meadows, le club de Rome, où les gens commencent à se préoccuper de l'environnement et de l'impact humain sur la planète. Et là, on a une photo où on voit la Terre qui est quelque chose de très coloré et de tout petit au milieu d'un ciel parfaitement noir. Et on prend conscience que c'est un univers fini et qu'il va falloir en prendre soin. Mais c'est très progressif.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous relatez donc un entretien avec Bill Anders, l'un des trois astronautes qui est parti effectivement lors de cette mission Apollo 8, qui vous dit « Nous sommes partis explorer la Lune et nous avons découvert la Terre ». Et ce qu'il vous dit aussi, c'est « Je n'ai pas mis longtemps à réaliser que la Lune était un peu ennuyeuse. En fait, c'était des trous, elle ressemblait à un champ de bataille ».
Oui, alors évidemment, tout le monde attendait qu'une fois que les astronautes avaient fait le premier tour derrière la face cachée de la Lune, où les communications étaient coupées avec la Terre, tout le monde attendait qu'ils nous disent « Ça ressemble à quoi ?». Alors certes, on avait des photos, mais c'était la première fois que des gens se baladaient à 100 km au-dessus de cette surface. Et effectivement, le Capcom, l'astronaute qui était resté à Houston et qui communiquait avec la capsule, la première question qu'il leur pose, c'est « Alors, c'était comment ?». Et là, aussi bien Lovell qu'Anders, qui pourtant ont passé leur temps l'œil collé au hublot, on décrit quelque chose comme du plâtre, du gris, des trous dans des trous. Et moi, j'étais un peu étonné quand Anders me raconte ça.
Il dit
c'était très décevant et c'était boring, ennuyeux. Alors, j'ai dit, mais vous êtes le premier à être allé autour de la Lune et vous trouviez ça ennuyeux. En fait, il y a quand même un peu de ressenti de sa part à ce moment-là, parce qu'il le raconte aussi dans l'interview et il comprend avec cette mission, pour des raisons autres, qu'il n'aura pas la chance, lui, d'aller marcher sur la Lune. Donc, il est un peu...
Et puis, la Terre reste un beau spectacle, en fait.
Et finalement, la Terre était le spectacle qui a mis de la couleur dans leur exploration. Et là, Anders, quand on entend l'audio des communications avec la Terre, on entend que c'est lui qui vraiment est très actif pour faire cette photo. Il demande un film couleur à Jim Lovell, qui lui dit « Est-ce que tu veux celui-là ou celui-là ?» Il dit « N'importe lequel, passe-moi un film, parce que ça défile très vite. » Il veut vraiment faire cette photo et on le remercie beaucoup 50 ans après, puisqu'il est toujours là pour se souvenir de ça.
Et alors l'un des trois astronautes de la mission dit « En réalité, nous allons au paradis quand nous naissons, pas quand nous mourons. »
C'est Jim Lovell qui prend conscience aussi que c'est la Terre qui est vraiment le paradis, et pas un au-delà hypothétique.
Alors je vous propose, chers confrères, chères consœurs, de quitter l'espace pour rejoindre un monde lui aussi mystérieux, celui des rêves.
Une petite question. Vous ne vous souvenez jamais vraiment du début de vos rêves, n'est-ce pas? Vous atterrissez systématiquement au beau milieu de l'action.
C'est juste, oui.
On est arrivé comment ici?
Eh bien, on sort à peine de...
Comment êtes-vous arrivé ici? Réfléchissez, Ariane. Où êtes-vous en ce moment?
On est en train de rêver?
Vous êtes au beau milieu d'un atelier pratique, là, endormi. Vous suivez votre première leçon de rêve partagé. Gardez votre calme.
Extrait de Inception. Vous avez peut-être vu ce film américain de 2010 qui suit le parcours d'un personnage spécialisé dans l'extraction. Il s'approprie les secrets des gens pendant qu'ils rêvent, quand leur esprit est particulièrement vulnérable. Thomas Cavalier, ce n'est pas ce que vous allez faire avec nous, mais vous êtes penché pour Science et Avenir sur cette science des rêves qui nous apprend de plus en plus de choses.
Tout à fait. En fait, la science des rêves, elle est en plein boom là, ces temps-ci. C'est un nouvel âge d'or. Et c'est assez intéressant que vous ayez passé cette extrait, parce que là on entend en fait un rêve lucide. Prendre conscience que l'on est dans un rêve, c'est faire ce qu'on appelle un rêve lucide. C'est la première étape d'un rêve lucide.
Donc on rêve et on se rend compte qu'on est en train de rêver, en fait.
Exactement. Ça, c'est une première étape pour aller vers le rêve lucide. Et après, on peut contrôler complètement notre inconscient, notre univers onirique, si jamais on arrive à rentrer dans cet état. C'est un état qui est très étudié ces temps-ci, mais qui est malheureusement très rare. En fait, seulement 50% d'entre nous environ le feront au cours de leur vie. Sauf qu'il y a des techniques. il y a des techniques, elles commencent à passer, à rentrer dans les laboratoires, à être testées. Il y a d'abord des techniques naturelles, des sortes de mantras à répéter pour booster notre capacité à faire des rêves lucides. Mais il y a aussi des techniques pharmacologiques. On peut prendre des médicaments pour les booster et ainsi, et aussi, pardon.
Notamment un médicament contre Alzheimer.
Exactement, qui a été testé il y a peu et qui multipliait par 3 ou 4 la chance de pouvoir atteindre cette lucidité. Et il y a aussi les techniques de stimulation transcrânienne. Là, c'est se mettre des électrodes sur la tête, c'est très à la mode, ainsi pour booster la mémoire ou pour booster la créativité. Ça aussi permettrait de rentrer dans un rêve lucide. Et c'est un autre type d'exploration. Nous parlions de la Lune tout à l'heure. Là, c'est l'exploration de son propre inconscient. Alors, à quoi ça pourrait servir? C'est ça qui est étrange. À quoi ça pourrait servir? Tout d'abord, c'est très fun, en fait, de faire un rêve lucide parce qu'on peut faire absolument ce que l'on veut. On peut se comporter comme un véritable magicien, construire les bâtiments que l'on veut, faire les sports que l'on veut, faire les choses que l'on veut.
En fait, vraiment contrôler ce dont on va rêver.
Tout à fait. Tout est contrôlable, en fait. En théorie, c'est très difficile de rentrer dans cet état, je viens de vous le dire, mais en s'entraînant, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. C'est déjà utilisé par plusieurs sportifs. Il y a eu des études sur des sportifs, sur la façon dont le rêve lucide pouvait améliorer justement nos mouvements ou notre créativité. Mais ce qui est vraiment très intéressant aussi, c'est que pour l'exploration même du rêve, le rêveur lucide est un super allié du chercheur. C'est-à-dire qu'il est possible aujourd'hui d'envoyer quelqu'un dans le monde des rêves faire une tâche en particulier tout en le suivant en temps réel, tout en le regardant dormir, en fait. Parce qu'il est possible d'envoyer des messages du rêve à la réalité avec les yeux. Vous savez, les yeux, c'est le seul muscle, enfin le seul organe que l'on peut bouger pendant que l'on rêve. Donc, imaginons, je suis un rêveur lucide, vous êtes une chercheuse, vous voulez m'envoyer connaître par exemple le temps. Comment s'écoule le temps dans le rêve? Donc, m'envoyer dans un rêve, moi, j'acquiers ma lucidité, je me rappelle que je suis en fait dans un laboratoire et que j'ai une tâche à effectuer. Je vous fais un signal avec mes yeux, droite, gauche, par exemple, et je fais la tâche, une tâche simple. On va prendre, je dois compter jusqu'à 10. Je compte jusqu'à 10 et je refais mon signal avec les yeux qui indique la fin de l'expérience. Et c'est comme ça que, par exemple, que les chercheurs, et c'est tout récent, se sont rendus compte que le temps dans le rêve était exactement le même que celui dans la réalité. Pour les tâches simples, lorsqu'il s'agit de courir, le temps dans le rêve s'écoule un peu plus lentement. Donc voilà, il y a toute une explosion de la recherche sur le rêve qui est en train de s'effectuer grâce justement à cette facilité que l'on a maintenant grâce aux médicaments et aux méthodes de stimulation transcrânienne de rentrer en rêve lucide, c'est envoyer des explorateurs dans le monde onirique.
Et on en sait notamment de plus en plus sur la région du cerveau qui est concernée aussi par les rêves.
Oui, tout à fait, ça c'est une étude suisse qui a été faite l'année dernière. Pour la première fois, on sait ce qui se passe dans le cerveau quand on rêve. En fait, c'est assez étrange, mais ça n'avait jamais été caractérisé jusqu'ici. Et là, c'est l'équipe de Francesca Ciclari qui, seulement l'année dernière, a en gros découvert la zone du cerveau qui nous permet de rêver. C'est une zone, assez étrangement, qui se situe à l'arrière de la tête. En fait, notre cerveau, quand on est en train de dormir, il est un peu au ralenti. Il fait ce qu'on appelle des ondes. Vous savez, on a des oscillations cérébrales. Nos neurones, par leur activité cohérente, font des ondes cérébrales, on appelle ça. Ces ondes cérébrales, elles sont basses, ça veut dire qu'il y a peu d'activité. Et quand on rêve, il y a toute une zone du cerveau à l'arrière qui, lui, arrête de faire ses ondes de basse fréquence et le rêve commence. Et ça a appris plein de choses, en fait. Déjà, ça a cassé le mythe comme quoi le rêve n'existait pas et que c'était seulement une invention du cerveau au réveil. Deuxième chose, c'est que, contrairement à la grosse idée reçue, on ne rêve pas seulement quand sommeil paradoxal. Les chercheurs s'en doutaient déjà, parce qu'on avait des... Les gens, il y avait des observations, les gens racontaient leurs rêves même s'ils n'étaient pas rentrés en sommeil paradoxal. Mais là, on en est sûr, on rêve tout le temps, en sommeil profond, en sommeil paradoxal. Et enfin, ce qui est assez étonnant, c'est que cette zone à l'arrière du cerveau, elle n'a pas de nom particulier pour l'instant, elle s'appelle juste zone chaude. Mais elle intègre en gros les zones visuelles, la zone du mouvement, la zone du repère spatio-temporel. Et les chercheurs se sont rendus compte que, en fonction du scénario du rêve, on voyait les zones particulières s'allumer. C'est-à-dire que si vous allez bouger dans votre rêve, on va voir la zone du mouvement s'allumer. Si vous voyez un visage, que vous connaissez un visage particulièrement, il y aura la zone de la reconnaissance faciale qui va s'allumer. Et tout ça offre en fait la possibilité, peut-être future, nous sommes encore dans la spéculation, pour l'instant ce ne sont que des résultats a posteriori, mais peut-être de pouvoir enregistrer ou de comprendre les rêves en temps réel, ce qui est en train de se passer dans le cerveau du rêveur.
Allez, vous restez avec nous après avoir exploré avec vous ce monde des rêves. Nous allons apprendre à garder notre sang-froid et voir en quoi c'est important dans un instant. Mais d'abord, calme, c'est signé Roméo Elvis. Vous écoutez RFI.
Oh, tu vas la chercher ta boîte à cirage, oui ou merde ?
Putain, d'enfoiré ! Voilà, espèce d'enflure de merde !
Ouais, viens par là, viens par là. Viens un peu qu'on rigole,
oh,
laissez-le.
Ta mère, il a eu par ma douille, gentil.
Il faut que je me calme et pense aux autres. Y'a beaucoup de bêtes gens. Objectif, le reste des vies, c'est l'apprivoise, le métronome. Et quand la pêche rentre, faut que j'évacue cette force bêtement. Donc je crame des bêtes et perds du baise au Monopoly. J'ai trop de nerfs pour être cool et patient. J'avais 12 piges la dernière fois que j'ai fait la file pour voir un film. Et pour être honnête, j'ai fait le tour de la question l'hyperactif. C'est 12 piles alcalines dans une batterie. Faut que je me calme et pense aux collègues. À Carrefour j'ai les nerfs qui lâchent. J'hésite pas pour caler sur les problèmes. Les alcoolos n'aiment pas mes blagounettes. Encore une date de Red Label. Mais c'est déjà la troisième cette semaine. Et faut que je me calme et fasse mes valises. La stip veut mes sous, je pars vite pour les Caraïbes. Me tire loin de tout. Pour ce faire, faut que je me calme et commande. Indiquer sur internet, indiquer la destination. Un clic et c'est bien, c'est fait. Faut que je me casse pour me calmer. Me parle pas de rélatine, de shit, de tisane. De petits biscuits miracles. Un bisou de ma bien-aimée suffira. J'ai l'énergie d'une troupe électrique excitée par la cellulite des divas. Merde, l'idéal c'est tranquille sans transpiration. J'inspire à fond mais j'arrive en bandit. J'inspire à fond mais j'arrive en bandit. Bandit,
on se tape dans le dos, on s'embrasse et deux minutes après il me saute dessus comme s'il était enragé.
Non, enfin tu l'as insulté un peu quand même. Tu lui as légèrement manqué de respect.
Je l'ai pas insulté
un petit peu.
Non, j'ai insulté personne. Allez, un verre pour tout le monde.
Ok.
Mec ton, écoute-moi, je fais des progrès ouf depuis que mes questions touchent ou disparaissent en coulant. Averse de pression dans ma douche, je pense en raisonnant, va falloir que j'écoute grave, style Jarmouche, George Bush en président. J'aimais bien cette parenthèse dans la vie quand je tombais fou de l'oreille, ça comptait toutes les minutes qui me séparaient de mamie. Et c'est mon seul antidote, ma douce me calme, plus besoin de pousse poudre. Et pour être cool, à la foule je parle, sans agression, ni même une pointe de haine j'aime. Penser sans faire parler toute ma raison d'être. Et lorsque la nuit tombe, l'ennemi a cessé d'acheter ses cassettes de cap et des pétapis dans l'ombre. Appelle-moi Johnny, truand pour les connaisseurs de fin rap, c'est 20 balles. Pour espérer toucher cette catégorie, ça fait Johnny. Truant pour les connaisseurs de fin rap, c'est 20 balles. Pour espérer toucher cette catégorie. Pouah.
Autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusque dans les rédactions, celle des collègues journalistes scientifiques que nous recevons aujourd'hui, Carole Châtelain de Sciences et Avenir, Philippe Hénarejos de Ciel et Espace, Thomas Cavaillé-Folle de Science et Vie et Philippe Pajot de La Recherche, qui sont tous les quatre venus avec des magazines à gagner, comme chaque mois. Et pour les recevoir, il suffit de nous écrire sur Facebook, sur notre page Autour de la question ou sur notre adresse mail autour de la question tout attaché @rfi.fr. Alors on parlait avant cette petite pause musical de contrôler ses rêves. On va parler désormais de self-control en étant éveillé cette fois, ou de maîtrise de soi. On va essayer de limiter les anglicismes. Vous décryptez donc cette maîtrise de soi dans vos pages, Carole.
Oui, tout à fait. Et pourquoi nous faisons ça précisément ce mois-ci? D'une part, c'est un contexte, c'est-à-dire que dans notre société numérique, on est de plus en plus sollicité, notre attention est de plus en plus éparpillée. Et ça a des conséquences tout à fait fondamentales sur le fonctionnement de notre cerveau. Et les chercheurs s'intéressent depuis longtemps à ces questions et commencent à vraiment décrypter ce qui se passe dans notre cerveau quand on doit maintenir son attention ou quand au contraire on est sollicité par les téléphones portables. Enfin, par tout ce qui nous les petits bruits que font les mails quand ils arrivent dans nos ordinateurs, etc. Et tout ça, ça a vraiment, ça n'est pas qu'une idée que l'on s'en fait de dire que ça déconcentre. Il y a vraiment des conséquences très très particulières. Et c'est ce que nous avons voulu montrer. Donc nous avons balayé des dizaines d'années de recherche, dont les plus récentes, parce que ce n'est pas nouveau hein, qu'on s'intéresse à ce qu'est l'attention et comment on fait pour maîtriser. Parce que qu'est-ce que c'est que le contrôle de soi? C'est maîtriser ses émotions. C'est c'est savoir ce que l'on se fixer des objectifs, s'y tenir et ne pas partir dans tous les sens, comme on pourrait le dire. Et ça, dès les années 50, il y a un fameux test qui s'appelle le test du marshmallow, qui est le nom anglais du chamallow, qui lui-même est
de la guimauve, en fait.
Non, de la guimauve. Voilà. Et ce test qui avait été fait par un Américain qui s'appelait Walter Mischel, qui a fait date hein, dans l'histoire de la psychologie. D'ailleurs, Walter Mischel qui vient de décéder cette année. Eh bien, consistait à faire rentrer des enfants individuellement dans une pièce, de leur mettre un chamallow sous le nez et de leur dire « si tu résistes au chamallow qui est sous ton nez et que lorsque je reviens dans la pièce, tu ne l'as pas mangé, tu en auras deux ». Mais sans lui signifier combien de temps l'expérimentateur allait s'absenter. Et toutes ces
donc
toutes
ça ces expériences, à résister à la voilà, tentation.
Toutes ces expériences ont été filmées. Plus de 500 enfants sont passés comme ça sous les caméras. Et c'est extrêmement drôle. Il faut aller regarder ça sur YouTube parce que toutes les stratégies sont mises en œuvre. Mais il y a eu un suivi de ces enfants sur une trentaine d'années. Donc ce n'est pas rien. Et on s'est rendu compte, les chercheurs ont pu établir que ceux qui avaient résisté, qui avaient réussi à ne pas manger le chamallow.
Stratégie du coup par exemple.
Alors bah il y a tout ce que toutes les il y a ceux qui chantent, il y a ceux qui regardent ailleurs.
On pense à autre chose.
Il y a
fait.
Ceux qui l'échouillent un petit peu le chamallow puis qui le repose et puis il y a ceux qui se jettent dessus tout de suite sans même essayer de comprendre. Bon. Donc les résultats c'est que ceux qui avaient réussi à résister réussissaient mieux dans la vie en quelque sorte. Ils se fixaient des objectifs et s'y tenaient. Et donc pourquoi là et je reviens aux découvertes récentes, notamment une découverte française tout à fait qui s'est produite il y a à peine quelques mois par l'INSERM et le CNRS, on a découvert vraiment qu'il y avait deux circuits dans notre cerveau, vraiment un circuit froid et un circuit chaud. J'aurais dû commencer par le chaud, un circuit chaud et un circuit froid. C'est-à-dire que lorsqu'on a une simulation visuelle, on voit une pomme, on voit un gâteau, immédiatement il y a un circuit chaud qui se met en route et qui est un circuit limbique, c'est-à-dire on va le dire circuit primaire, qui fait en sorte de produire de la dopamine et ça met en circuit ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Donc ça c'est le plaisir. Donc immédiatement le circuit chaud dit « Ouh !» on va prendre le gâteau. Et en plus, tout cela anime des glandes qui sont à l'arrière du cerveau, qui sont l'hippocampe et l'amygdale, qui sont des glandes qui réagissent assez vite. Et si on lui laisse le temps, il y a un deuxième circuit qui se met en route, qui est plutôt le cortex orbitofrontal, c'est la partie supérieure du cerveau, qui est plutôt devant, et qui lui va refroidir tout ça et dire attention, attention, nous avons des objectifs peut-être à suivre et on n'est peut-être pas obligé de se jeter sur le gâteau. Donc notre vie est un conflit permanent entre ces deux circuits et nous donnons dans notre magazine des méthodes pour essayer de faire en sorte que ce ne soit pas toujours le circuit chaud qui l'emporte.
Et alors par exemple
des petits conseils assez simples. Hein. Par exemple, il faut établir une routine. Imaginez, vous dites, je vais aller faire de la gym. Si vous ne vous dites pas, je vais aller faire de la gym tous les lundis de 15 à 16, vous n'irez jamais. Parce que vous allez constamment mettre en conflit les deux circuits. Tandis que si vous fixez cet objectif, le circuit chaud, il est hors service. Il sait que là, tant pis, ça a été décidé. Autre façon, c'est évidemment rendre son objectif attrayant. Hein, et puis, il faut essayer de changer sa perception. Si vous dites, par exemple, si je mange du sucre, je vais essayer de considérer en fait que le sucre, c'est un poison, vous en mangerez moins. Voilà, c'est des petites techniques quotidiennes qui sont extrêmement efficaces.
Et heureusement, la question « Faut-il se contrôler en permanence ?» Le chercheur en neurosciences Jean-Philippe Lachaud, que vous citez dans l'article, répond « Certainement pas. Il ne faut pas se retenir de déguster un cookie si on en a vraiment envie. »
C'est ça. Et puis nous avons aussi étudié les profils émotionnels. Là aussi, je ne sais pas si on a le temps d'en dire deux mots. Juste un chercheur extrêmement connu américain qui a travaillé notamment avec le Dalai Lama et qui s'appelle Richard Davidson, hein, qui est professeur dans le Wisconsin, qui a établi que nous avons 6 profils émotionnels, suivant que nous sommes plus ou moins résilients, que nous sommes plus ou moins attentifs à l'intuition sociale, etc. etc. Donc il y a des données génétiques à tout ça, mais on peut changer, on peut, grâce à la plasticité cérébrale, essayer de changer nos profils.
Autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Alors une autre actualité dont il est difficile de ne pas parler en ce moment, c'est celle de la COP24, la conférence des Nations Unies sur le climat, qui se tient en Pologne, à Katowice.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
la lutte contre le réchauffement climatique. C'est tout l'enjeu de cette conférence sur le climat qui se tient à Katowice en Pologne, Vincent.
C'est là que se tient la COP24 après la COP23 à Bonn qui n'a servi à rien et avant la COP25 dont personne ne sait où elle plantera ses tréteaux parce que le Brésil n'en veut plus. À Katowice, le secrétaire général de l'ONU était hier au bon endroit pour pousser un lamento planétaire. Antonio Guterres sonne le glas. Pour beaucoup de gens, gémit-il, c'est une question de vie ou de mort. Et nous avançons toujours si lentement et dans la mauvaise direction.
Extrait de la matinale de la radio Europe 1. Alors, on peut lire ce mois-ci dans La Recherche un entretien sur ce sujet, Philippe Pajot. Un entretien avec la paléoclimatologue Valérie Masson Delmotte, qui fait partie des experts mondialement reconnus sur cette question du réchauffement climatique et qui a coordonné la rédaction du rapport spécial sur 1,5 degré de réchauffement planétaire, rapport dont elle vous parle dans cet entretien.
Exactement, donc on a pensé que la question de la COP24, ce serait le bon moment pour parler de ça. Et le rapport, en fait, est sorti au mois d'octobre. Juste pour présenter Valérie Masson-Delmotte, elle est la présidente en fait, du groupe 1 du GIEC, hein, qui est le groupe international d'experts sur le climat, et elle s'occupe notamment des bases physiques du climat, donc vraiment experte dans ce domaine. C'est un rapport qui a demandé 19 mois de travail, et dont les conclusions montrent plusieurs points. Et d'abord, il montre la réalité du réchauffement climatique. Il est déjà là, et il le montre sous la forme des vagues de chaleur et des pluies violentes qui peuvent se produire. Deuxième conclusion de ce rapport, c'est qu'il y a des bénéfices clairs en fait, à maintenir le réchauffement à 1,5 degré plutôt que 2 et plus. Alors, plus le réchauffement se poursuit, plus les risques sont élevés. Des risques pour les écosystèmes, des risques pour les événements extrêmes, montée du niveau des mers, sécurité alimentaire, santé, activité économique. Et troisième conclusion, en fait, maintenir ce réchauffement à 1,5 degré, ce n'est pas impossible, mais ça va demander des transitions sans précédent dans tous les domaines d'activité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est un rapport qui alerte, hein, d'une part. Et à quoi bon une nouvelle alerte? Parce que ça fait quand même longtemps que les scientifiques alertent, c'est pas nouveau. Hein, le GIEC, je le rappelle, a été créé en 88 et les scientifiques, depuis les années 70, n'ont pas arrêté d'alerter. Alors, c'est un message d'alerte, mais également un message d'espoir. Parce que ce qu'elle dit en substance, que si effectivement le climat se réchauffe et plus personne ne remet ça en doute, il est encore temps d'agir. Et les conséquences ne seront pas les mêmes justement selon ce qu'on fait. En gros, ce qu'elle aime à répéter, c'est chaque demi-degré compte. Donc en fait, il faut agir très rapidement, le plus rapidement possible. Alors pour refixer les choses, aujourd'hui, on est déjà à plus 1 degré par rapport de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc en gros, l'enjeu, c'est où est-ce qu'on va arriver. Donc ce rapport, en fait...
Et l'enjeu, c'est de limiter donc à 1,5 degré.
Alors,
de limiter
voilà,
cette hausse.
Donc ce rapport montre bien, illustre bien, c'est qu'il y a une différence extrêmement forte entre 1,5 et 2. Donc d'abord, des différences régionales très, très claires, notamment au niveau du niveau moyen de réchauffement, les événements extrêmes, je l'ai dit. Prenons un exemple très simple, c'est le pergélisol arctique. Le pergélisol arctique, c'est ces sols qui sont gelés en profondeur.
On en parlait hier dans une émission sur le carbone, de carbone terrestre.
Si on maintient le réchauffement à 1,5 plutôt qu'à 2, ça permet de conserver une surface équivalente à 4 fois la France, donc qui resterait gelée, donc équivalent de l'Algérie. Et c'est vraiment embêtant parce que le pergélisol, en fondant, il émet énormément de CH4, qui est un autre gaz à effet de serre. Autre exemple, pour la montée du niveau des mers, l'eau continuera de monter de toute façon, mais limitée à 1,5 permet de limiter à 10 cm la montée du niveau par rapport à 2 degrés. Ce qui veut dire un temps supplémentaire pour les régions littorales pour s'adapter. Et enfin, une conclusion également, c'est que tous les pays ne seront pas égaux. Il y a des régions du monde qui seront comme l'Arctique ou les zones sèches semi-arides, donc, qui sont quand même fréquentes en Afrique également, les petits essaims insulaires qui seront beaucoup plus durement impactés que les autres.
Et qu'est-ce que cette paléoclimatologue attend alors de la COP24 qui se tient en ce moment?
Alors, d'abord, elle aimerait bien justement elle explique en fait, elle voudrait que tout le monde lise ce rapport de manière très claire. Et ce qu'elle y dit dans ce rapport, c'est d'abord qu'il n'est pas trop tard, donc ça c'est vraiment important, et en plus elle dit comment faire, donc c'est ce que discutent en fait les gens en ce moment, et comment faire, c'est-à-dire elle étudie les différentes trajectoires, qui peuvent mener justement à un abaissement de l'émission des gaz et donc à limiter à 1,5. Donc il n'y a pas de trajectoire idéale, mais des options multiples qui mettent tout en jeu des transitions des grands systèmes énergétiques, etc. Des systèmes industriels, la gestion des terres, des infrastructures, et c'est pour ça que c'est pas facile à faire, mais que ça fait entrer beaucoup de choses différentes. Alors, qu'est-ce qui est commun à cette trajectoire? C'est d'abord une réduction très rapide de l'utilisation du charbon pour produire de l'électricité. Donc, 50 à 95% d'électricité devrait être issue des sources renouvelables d'ici 2050.
Donc c'est un objectif ambitieux.
Voilà, donc on se demande pour combien ça va coûter. Alors justement, c'est pour là que je reviens à la Banque mondiale dont on parlait tout à l'heure. Justement, et ça c'est une lueur d'espoir qui est apparue ces jours-ci hier à la COP24, c'est que la Banque mondiale justement va mobiliser 200 milliards de dollars entre 2021 et 2025. 100 milliards pour l'adaptation des pays en développement au dérèglement climatique et 100 milliards pour lutter contre le réchauffement. Et enfin... Un autre message très positif, en fait, peut-être le dernier message de ce rapport, coordonné par Valérie Masson-Delmotte, qui donne une lueur d'espoir, c'est qu'agir pour transformer les modes de vie, les manières de produire et les grands secteurs d'activité pour l'action du climat, ça apporte des bénéfices immenses pour beaucoup d'autres aspects du développement durable, en particulier l'attention portée à la pauvreté et la faim.
Voilà. Donc ça permet de résoudre un certain nombre d'autres problèmes.
Il faut se dépêcher parce qu'on pourra pas négocier, on peut négocier avec la politique, mais avec le climat, on ne pourra pas négocier avec le climat.
Alors justement, pour organiser ces négociations sur le climat, une méthode est mise en place pour discuter entre États. C'est une méthode qui est inspirée de ce qu'on appelle le dialogue Talanoa, une pratique traditionnelle sur les îles Fidji. Vous nous en dites un peu plus, Carole Châtelain ?
Oui, ça nous a semblé très intéressant d'aller regarder de près ce qui se passait. C'est-à-dire qu'à l'issue de la COP23, un grand barnum qui n'avait servi à rien... Le président de la COP23, qui était fidjien, s'est dit « on ne peut plus durer comme ça, il faut trouver une autre façon de se parler ». Et il a mis en place, ça a été accepté, donc désormais les discussions se font sous cette forme, du moins une partie des discussions se font sous la forme du dialogue de Talanoa, c'est-à-dire qu'on oublie les hiérarchies. Tout le monde est assis à la table, d'ailleurs il n'y a pas de table, tout le monde est au même niveau, et on fait appel à des interlocuteurs très différents qui arrivent avec leurs expériences, c'est des retours d'expérience, c'est du dialogue, c'est du respect de soi, c'est de l'intelligence collective. Donc c'est mis en place dans tous les pays. Les pays sont priés, obligés de faire un dialogue de Talanoa. Nous sommes allés assister à celui mis en place en Afrique, où il y avait, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où il y avait 27 pays en juin dernier qui étaient réunis, qui ont fait un échange donc, d'expériences. C'est extrêmement intéressant et surtout très riche en idées. Et pour vous donner là aussi une comparaison, la France a organisé son dialogue de Talanoa, une réunion au ministère qui est durée 2 heures avant un match de Coupe du Monde de football. Pour vous dire que chacun mène le dialogue comme à l'importance qu'il y accorde. Mais il n'empêche, cette façon de discuter fait l'objet d'un rapport final. Et à chaque COP, donc à la COP24, il y aura un rapport final. Et je pense qu'on peut en attendre vraiment beaucoup.
Et avec 3 interrogations centrales, où en sommes-nous? Où voulons-nous aller? Et comment faire pour y parvenir?
Exactement.
Fois,
et donc, l'idée, c'est de réunir des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qui sont des gens de terrain, qui sont des agronomes, qui sont des urbanistes, qui sont des énergéticiens, et qui ne sont pas là pour se couper la parole ou pour des questions politiques, mais qui sont juste là pour dire, voilà, moi, ça se passe comme ça dans mon pays, ça se passe comme ça dans mon village, ça se passe comme ça dans ma région... Et avec des vrais chiffres, et les gens s'écoutent. C'est vraiment de l'intelligence collective. C'est un pari.
Et le prochain rendez-vous Talanoa sur le continent africain est prévu à Accra, au Ghana, courant 2019.
C'est ça.
L'année prochaine. Espérons que tout ça ne soit pas du blabla, blablabla. Bla. C'est tout de suite sur RFI et c'est signé Philippe Catherine.
Tu parles blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Tu parles, tu meurs, tu... tu parles plus. Tu parles, tu meurs, 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 tu parles plus.
Ça reste dans la tête, hein, n'est-ce pas? Alors, on continue de blablater, de palabrer, de discuter sur RFI autour de la question comment la science infuse et se diffuse avec nos confrères de la presse scientifique. Philippe Hénarejos, Ciel et Espace nous emmène au Sénégal en août dernier où on a pu observer l'occultation d'une étoile par un astre.
Oui, alors c'est un prélude à quelque chose qui va se passer le 1er janvier prochain. La sonde New Horizon, qui a survolé Pluton en 2014, qui a amené les premières images rapprochées de cet astre lointain, va passer devant un astéroïde lointain qui s'appelle 2014 MU69, que certains ont baptisé Ultima Thule, mais c'est un nom officieux. Et il s'agit d'un astre très lointain qui n'a été observé que par des très grands télescopes et qui est un point sur les photos des grands télescopes, il faut en savoir plus parce que piloter une sonde à plusieurs milliards de kilomètres de la Terre, ça ne se fait pas facilement, il y a plusieurs heures pour envoyer les ordres. Et donc, il faut, pour en savoir plus, il y a une méthode, c'est quand cet astre va passer devant une étoile, il va projeter son ombre sur la Terre, donc ça oblige les astronomes à aller dans un endroit précis de notre planète pour observer ce phénomène. Et avec des chronométrages précis, on arrive à savoir quelle est sa taille, quelle est sa forme. Et là, il y avait une question, est-ce que cet astéroïde ne serait pas double? Est-ce que ce ne serait pas deux corps qui se tournent l'un autour de l'autre? Ce qui a une importance, parce que si vous envoyez la sonde juste à côté et qu'il y a deux corps, elle risque de percuter l'un des deux corps. Donc, voilà pourquoi
et à leur conclusion
les astronomes, des Américains, des Français et des Sénégalais se sont retrouvés là-bas, au mois d'août dernier, pour essayer de déterminer la forme. Alors, pas de chance, il y a eu beaucoup d'orages à ce moment-là, mais il y a quand même une observation qui a pu être faite et qui confirme qu'il s'agit a priori d'un corps simple, et ce qui permettra sans doute à la sonde New Horizon de nous envoyer de très belles images le 1er janvier prochain.
Alors, cette observation à Dakar a été menée notamment dans le cadre de l'Initiative africaine pour les sciences des planètes et de l'espace, initiative lancée en 2017 par un collectif de chercheurs, donc de France, du Sénégal et du Maroc notamment, collectif dont fait partie David Baratou, géologue à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Je vous propose de l'écouter. Pour lui, il est important d'étudier les phénomènes astronomiques depuis le continent africain.
Ça peut être des occultations stellaires, ça peut être c'est des objets qui vont passer, des astéroïdes qui vont passer devant des étoiles, et ça a des trajectoires bien précises, comme une éclipse de soleil, comme une éclipse de lune, et ce genre d'événement, il n'est pas observable de partout sur la Terre. Et quand la trajectoire elle passe sur quelques pays d'Afrique, elle ne passe pas forcément ailleurs. Il n'y a aucune raison de penser qu'une partie de l'humanité devrait être privée de prendre part à cette science passionnante. C'est une première raison, elle est morale. Et même si les moyens ne sont pas les mêmes dans certains pays, on peut toujours mener des projets qui font que les chercheurs africains prennent part à cette science globale en astronomie.
Voir les étoiles depuis le continent africain, c'est donc l'idée de ce chercheur et puis d'autres. Philippe Hénarejos, qu'est-ce que cela vous inspire ?
Ça m'inspire que la nature fait bien les choses, parce qu'en projetant les ombres et les éclipses un peu au hasard sur la Terre, il n'y a pas de pays privilégié. Et la collaboration, l'échange, c'est quelque chose d'essentiel en science. Et il n'y a pas de raison, effectivement, qu'il y ait des pays qui en soient exclus. Et le fait qu'un événement comme une éclipse ou une occultation amène des astronomes professionnels dotés de gros moyens dans des pays qui le sont moins, bien c'est un moyen aussi de partager cette expérience et de permettre à chacun de jouer dans la cour des grands comme ça et de faire de la science. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des exclus.
Alors, on passe à un sujet complètement différent, Philippe Pajot, celui de nouvelles armes contre le cancer. Pour éliminer le plus précisément possible les cellules cancéreuses, la recherche avance vite sur ce sujet. Vous faites le point dans votre magazine.
Exactement, la bataille contre le cancer est loin d'être terminée, même si depuis les années 80, il y a une amélioration très nette. Et en fonction des cancers, les taux de survie varient. Chez les hommes, par exemple, ça va de 9% pour le pancréas à 13% de survie nette à 5 ans pour la prostate. Et chez les femmes, 10% pour le pancréas et par exemple 97% pour la thyroïde.
Donc ça dépend vraiment des formes de cancer.
Aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, on guérit en gros un peu plus d'un cancer sur deux. Et ce qu'on aimerait arriver à faire, c'est arriver à l'horizon 2030 à guérir trois patients sur quatre, hein, ce qui est quand même un net progrès. Pour cela, il y a pas mal d'outils et de nouvelles armes justement contre le cancer qu'on passe en revue dans différents articles de notre numéro. Notamment, il y a une analyse cellule par cellule des tumeurs qui permet de personnaliser le traitement. Ça, c'est une première chose. Il y a évidemment l'immunothérapie dont on a
l'idée d'activer le système immunitaire des patients.
Voilà, exactement. Il y a beaucoup de progrès en radiothérapie où on arrive à délivrer des doses de manière, délivrer l'énergie de manière beaucoup plus précisément, soit par du rayonnement électromagnétique, soit par des particules, hein, des protons. Et puis on commence également à mieux comprendre ce qui se passe au niveau des métastases. Hein, ça, c'est les mécanismes des métastases. Vous savez, c'est ces tumeurs qui s'échappent de leur lieu originel, qui vont ensuite coloniser d'autres zones du corps et qui posent énormément de problèmes justement pour la survie. Alors là, on est à un stade beaucoup plus fondamental, mais on arrive à bien mieux comprendre les mécanismes physiques en fait, qui permettent à ces métastases de se détacher et du coup à envisager des pistes thérapeutiques pour les empêcher de le faire.
Et on progresse notamment avec l'intelligence artificielle sur ces traitements-là.
Exactement. En santé, de manière générale, l'intelligence artificielle va prendre une place énorme.
Alors, dernier sujet du jour avec vous, Thomas Cavaillé-Foll. Plus les temps sont durs, plus il naît de filles. C'est la conclusion étonnante de plusieurs études. En fait, l'idée que le stress favoriserait la naissance de filles plutôt que la naissance de garçons.
Oui, exactement. En fait, l'idée reçue, c'est que lorsqu'on a une naissance, c'est 50% on a la chance d'avoir une fille ou 50% un garçon. Et en fait, déjà, c'est faux. En période normale, on a plus de garçons. C'est plutôt 51% en faveur des garçons et 49% pour les filles. Mais surtout, il y a énormément de facteurs extérieurs qui peuvent influer sur ce qu'on appelle ce sexe ratio. Il y a par exemple l'alimentation, la fréquence des rapports sexuels, la pollution et apparemment le stress. Et ça, c'est ce que nous apprend la journaliste Elsa Abdoun dans Science et Vie ce mois-ci. Il y a eu plusieurs études après par exemple les attentats du 11 septembre à New York, après la catastrophe de Fukushima, après plusieurs séismes, on a vu quelques pourcentages augmenter dans les proportions de filles qui naissaient. Et pour l'instant, c'est juste une observation. C'est très difficile de trouver le lien de cause à effet, mais le fait est que l'effet est là. Et ce qui nous a particulièrement intéressé à Science et Vie, c'est que ça résonne avec des mécanismes biologiques assez connus.
De sélection naturelle ?
Oui, tout à fait. Ben déjà, le fœtus mâle est plus fragile généralement. Il demande plus d'énergie à produire. Donc, dans un environnement stressant, il est peut-être effectivement plus fragile et à l'origine de plus de fausses couches, en fait. Mais aussi, comme vous le dites, ça pourrait être aussi un phénomène de sélection naturelle, donc de la théorie de l'évolution, vraiment, qui aurait été sélectionnée par l'évolution. C'est que si vos parents sont stressés, c'est peut-être le signe d'une vie un peu rude. Et dans ce cas-là, il vaut mieux avoir une fille qu'un garçon. C'est-à-dire que si on est dans des conditions difficiles, en fait, on risque d'être un peu sous-nourri, peut-être un peu plus faible que d'habitude. Et les filles vont mieux s'en sortir pour transmettre leurs gènes que les garçons qui, eux, sont soumis à une compétition de sélection naturelle, une compétition pour la reproduction plus rude. Mmh. Et c'est visible, bien sûr, pas seulement chez l'homme, mais dans tout le règne animal sexué.
Et les chercheurs vont continuer de creuser ce sujet, notamment en étudiant le sexe des bébés nés après les attentats du 13 novembre 2015
à
Paris.
Ouais.
Donc un sujet qui reste encore
d'actualité et qui promet d'offrir
à creuser,
effectivement.
Étudier les traces laissées par les événements collectifs sur les individus. Merci, merci à tous les quatre, Thomas Cavaillé-Foll, Philippe Pajot, Carole Châtelain, Philippe Hénarejos, d'être venus dans notre studio nous révéler ce qui a attiré ce mois-ci votre curiosité scientifique. Un grand merci également à l'équipe de l'émission, Hugo Violas à la réalisation et Sophia Bédard en coulisses. Alors si vous voulez, amis auditeurs, recevoir des magazines apportés comme chaque mois par nos invités, n'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook Autour de la question ou par mail à l'adresse autour de la question tout attaché @rfi.fr. Et lundi prochain, vous retrouverez Igor Strauss derrière le micro. Il sera question des migrations sur notre planète à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'ici là, je vous propose de garder l'oreille ouverte sur le monde et ses métamorphoses. Dans quelques instants, les informations sur la radio mondiale. À bientôt.
Nous contacter autour de la question @rfi.fr.